Il était une fois l'histoire d'Éric Comblin, Corporate Finance Advisor chez Emasphère. Éric évolue dans le monde de la finance d'entreprise, des fusions et acquisitions depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, dans notre podcast Once Upon a Business, il partage ses expériences et ses perspectives sur les transformations du secteur financier. Il nous offre en outre un aperçu précieux sur l'importance de l'adaptation et de l'innovation dans la finance d'entreprise. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Laurie et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphère, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent, apprentissage, conseils et même morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Éric.
Bonjour Laurie.
Alors moi je te connais déjà un petit peu puisque l'on se croise régulièrement dans les couloirs de chez Emasphère, mais je pense que nos auditeurs aimeraient bien faire ta connaissance. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à ceux qui nous écoutent ?
Bien sûr. Donc merci pour l'introduction Laurie et bonjour à tous. Donc je suis Éric Comblin. D'un point de vue privé, ben, je suis marié, j'ai deux enfants, un beau-fils, donc une belle famille recomposée. Et j'aime beaucoup le sport en général, donc des goûts divers et variés, hein, qui vont du football au tennis au paddle, en passant par le football américain et le hockey sur glace, donc assez éclectique en termes de goût pour le sport. D'un point de vue professionnel, tu l'as dit, j'ai une expérience de plus de 30 ans dans la finance et le M&A. Donc le M&A, c'est un acronyme pour Merger and Acquisition, donc les fusions et l'acquisition en bon français. J'ai eu l'opportunité de travailler à la fois pour des grands groupes internationaux, hein, comme Airbnb pendant une quinzaine d'années, mais aussi des entreprises de taille moyenne, des PME, familiales ou non d'ailleurs, et des startups, hein, comme Emasphère. Aujourd'hui, je travaille comme conseiller indépendant, donc spécialisé principalement dans la corporate finance et la transmission d'entreprises, et j'accompagne donc les dirigeants et les propriétaires, principalement de PME, hein, dans différents domaines tels que l'acquisition ou la cession d'entreprises, la recherche de financement, les levées de fonds ou autres conseils stratégiques et financiers. Donc voilà, voilà un bref aperçu, je pense, de ce que je suis et ce que je fais d'un point de vue professionnel.
Merci Eric. Et puisqu'on a mentionné Emasphère, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce qu'est Emasphère, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et nous donner également quelques chiffres clés?
Bien sûr, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient probablement présenter Emasphère d'une manière un peu plus efficace ou un peu plus percutante commercialement, que moi, donc probablement toi d'ailleurs, Laurie. Mais simplement, je dirais qu'Emasphère est une plateforme, une solution de reporting financier pour aider les CFO qui ont des soucis avec la collecte et la structuration de leurs données. Et donc, Emasphère va permettre de générer automatiquement des reportings, des KPI ou autres tableaux de bord. De plus, Emasphère, pour utiliser le nom complet, intègre des fonctionnalités complémentaires qui peuvent être très utiles pour les directeurs financiers, comme la consolidation, le prévisionnel de résultats ou le suivi de cash flow, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et donc, tout cela va permettre au CFO, au directeur financier, et à toute l'équipe financière d'ailleurs, de passer beaucoup moins de temps sur des tâches chronophages et avoir donc beaucoup plus de temps pour se consacrer à l'essentiel qui est pour moi l'analyse de ces données. Alors maintenant, en ce qui concerne les chiffres clés, ben, je dirais qu'Emasphère existe depuis un peu plus de 10 ans. Occupe environ une soixantaine de personnes. Donc voilà en quelques mots pour la présentation de la société.
Merci Eric, c'est très encourageant pour Emasphère. Est-ce que tu peux maintenant nous parler du rôle que tu occupes donc chez Emasphère, ton rôle de Corporate Finance Advisor, en quoi ça consiste au quotidien? C'est quoi une journée type pour Éric Comblin?
C'est quoi une journée type? Alors, je vais peut-être dire que si l'aventure est ma, pour moi en tout cas, et je crois que c'était sous un autre nom au départ d'ailleurs, elle a commencé il y a 10 ans, je n'ai pas personnellement été impliqué les 10 années en continu. Je pense d'ailleurs qu'un petit retour en arrière est, est peut-être nécessaire. Il faut savoir que je connais Hugues, donc Hugues Van de Peut, hein, donc pour tes auditeurs, le cofondateur, l'ex-CEO, l'actuel CIFO et CPO de la société. Nous connaissons depuis une trentaine d'années maintenant. Donc nous avons commencé ensemble chez AB InBev, Interbrew à l'époque. Et si Hugues a quitté assez rapidement, nous sommes retrouvés une quinzaine d'années plus tard chez Odyssey Financial Technology au Luxembourg, qui est un éditeur de logiciels de gestion de fortune pour les banques. Nous sommes retrouvés là-bas d'ailleurs avec d'autres actionnaires et administrateurs de notre société en fait. Et nous avions en finance des rôles assez complémentaires. Donc moi, je m'occupais déjà de la corporate finance et Hugues était responsable du contrôle de gestion. Et tu vas probablement retrouver là, en fait, un peu les prémices de sa réflexion, de création d'un reporting automatisé. Car à l'époque, déjà, il devait consolider les chiffres de multifilial avec des impacts devises assez importants. Et à la suite de la vente de la société, fin 2010, je pense, j'ai moi décidé de rejoindre une boutique de conseil en stratégie M&A, tandis qu'Hugues a commencé à réfléchir à une solution déjà de reporting automatisé qui pourrait faciliter à la fois sa tâche, parce qu'il avait encore un rôle à l'époque de contrôleur de gestion, mais aussi la tâche des directeurs financiers. Donc c'est vraiment le tout début d'Emasphère, en fait. Et pour la petite histoire, nous avions écrit ensemble les premiers specs d'Emasphère, donc sur les ratios BFR, les ratios financiers, les impacts taux de change, les cash flows, etc. Alors oui, j'ai accompagné Hugues depuis les origines de la société, et j'étais même administrateur au départ, mais mes interventions étaient à l'époque plutôt sur demande par rapport à un besoin spécifique. Et maintenant, pour répondre vraiment à ta question, donc depuis 2022, j'accompagne Emma de manière régulière, donc principalement sur les sujets de corporate finance, donc de finances d'entreprise qui vont des questions de financement, de relations avec les banques, aux warrants, stock options et autres sujets de valorisation. Voilà pour mon parcours passé et actuel avec Emma.
Merci Eric pour ce partage passionnant sur ton expérience. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle d'automatisation du reporting brièvement. Avec ton recul et ton expérience, quel est le regard que tu portes sur l'avancée de la digitalisation du métier de financier depuis tes débuts ?
Il est certain que depuis mes débuts, donc, hein, il y a plus de 30 ans maintenant, il y a eu un peu d'évolution, un peu de progrès. Alors oui, toi ou ta question d'ailleurs, Laurie, me rappelle un peu lourdement que j'ai connu l'époque du courrier et du fax, hein, qui ont été remplacés, je crois, fin des années 90 par l'arrivée du courriel. Mais c'est vrai que depuis le départ, il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein. Il y a eu les factures qui sont passées d'un format papier à un format électronique. Il y a eu l'ossérisation. Il y a eu les data rooms virtuels par rapport aux anciennes data rooms physiques. Donc oui, pas mal de progrès. De plus, grâce à la numérisation et à la robotisation, il est devenu possible de traiter des quantités massives d'informations plus ou moins complexes pour les transformer en informations utiles pour la prise de décision. Et donc, suite à la transformation digitale ou numérique, en bon français, je pense, le métier de financier a évolué. Donc, un grand nombre de tâches routinières peuvent désormais être déléguées à un outil numérique. Donc, la direction financière va disposer de plus en plus de temps pour se concentrer, encore une fois, sur l'analyse, le pilotage de la performance et autres missions stratégiques pour l'entreprise. Et donc, pour conclure, sans être un grand spécialiste de la digitalisation, je pense réellement que la transformation digitale de la finance est un phénomène, pour moi, inévitable. Hein. Les innovations technologiques telles que l'IA, donc l'intelligence artificielle ou la gestion des grands volumes de données, le big data, vont probablement encore permettre d'améliorer dans le futur, selon moi, l'efficacité, la sécurité et la rapidité des opérations financières.
Tout à fait. Quels sont les avantages clés que tu peux épingler qu'une entreprise puisse tirer de l'utilisation de logiciels de reporting automatisé comme Emasphère, par exemple, par rapport à un reporting réalisé sur Excel ?
Alors, Pour être complètement transparent, je dois reconnaître que dans mon activité relative à la transmission d'entreprise, j'utilise encore pas mal Excel hein, pour les valorisations ou les calculs de rentabilité des investissements ou des acquisitions. Mais il s'agit souvent de modèles adaptés au projet ou à la transaction et des modèles que je ne dois pas partager. Donc, par contre, pour les activités plus récurrentes d'un CFO, que sont la production de reporting, l'élaboration de KPI, l'échange ou le partage d'informations, soit avec des collègues, soit avec le comité de direction, le conseil d'administration, je pense que les avantages d'un outil comme Emasphere sont bien évidemment multiples. Hein. Donc, je citerai tout d'abord que l'automatisation du reporting financier va permettre de limiter les contrôles et ainsi que d'éviter des erreurs ou des retards dans la production du reporting. Mais pour moi, encore une fois, je me répète, mais ça va surtout permettre de ne pas passer du temps à manipuler, structurer manuellement les données et donc moins de tâches chronophages à faible valeur ajoutée pour la direction financière. En plus, je dirais qu'Emasphere permet aux professionnels de la finance de ne pas partir d'une feuille blanche. Donc, que ce soit pour l'élaboration de reporting financier, d'indicateurs financiers ou opérationnels d'ailleurs, ces paramètres sont déjà prédéfinis dans le système. Donc, c'est aussi un avantage pour l'équipe financière. De plus, Emasphere, contrairement à Excel, permet une flexibilité sécurisée pour le partage et la collaboration. Alors que lorsqu'on partage des fichiers dans Excel, il y a toujours un risque d'écrasement, de suppression de cellules, de liens, de formules. Donc, on est beaucoup plus à risque. Et pour terminer, je trouve que dans Excel, en tout cas par rapport à Emasphere, est souvent difficile ou en tout cas chronophage d'intégrer des données qui ne viennent pas directement d'Excel, donc qui viennent d'autres systèmes. Donc voilà, selon moi, les avantages clés d'Emasphere ou d'un outil automatisé par rapport à Excel, mais j'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres.
Je passe maintenant à un autre thème dans ce podcast pour rentrer dans le cœur de ton métier et de ton expertise, c'est-à-dire la fusion et acquisition ou M&A. Quelles sont les grandes évolutions que tu prévois dans le domaine de la finance d'entreprise au cours des prochaines années?
Je crois que nous en avons déjà pas mal parlé. Hein. Bien évidemment, l'impact de la digitalisation, de la transformation digitale sur le métier de la finance. Donc, je ne vais plus revenir. Pour moi, une seconde tendance importante, c'est la problématique ESG. Donc, où la conformité à ces critères ESG ainsi que la demande de reporting extra-financier hein, sur la collecte des données environnementales, sociales et de gouvernance vont devenir de plus en plus exigeantes. De plus, je pense que ces critères aussi sont également de plus en plus utilisés dans les décisions de financement et d'investissement dans un but, bien sûr, de mesurer et d'évaluer la durabilité des entreprises. Alors, moi, une méga tendance par rapport aux deux premières, mais qui va probablement impacter les professionnels de la finance, c'est la facturation électronique structurée, donc ce qu'on appelle l'e-invoicing B2B, qui va devenir une obligation à partir de 2026, je pense, et elle sera généralisée à tous les échanges entre entreprises. Alors, qu'est-ce que la facturation électronique ? C'est un système électronique structuré, en fait, qui va permettre, avec un minimum d'intervention humaine, d'émettre, de transmettre et de recevoir des factures de manière complètement dématérialisée, mais via une plateforme spécifique.
Très intéressant tout ça, en tout cas, Eric. Je me demandais également si tu pouvais nous partager une expérience enrichissante ou complexe que tu aurais vécue dans le domaine de la M&A au cours de ta carrière.
Alors, pas d'expérience particulière, donc pour moi, chaque mission est différente, enrichissante réellement en termes d'expérience, d'échanges humains, à la fois avec là où les personnes qu'on accompagne, avec l'équipe de projet éventuelle ou la contrepartie et ses conseillers. Je dois reconnaître que les transactions un peu plus exotiques, dans des pays lointains avec des cultures différentes. Hein. J'ai eu l'occasion d'aller beaucoup en Asie, en Europe de l'Est et un peu en Amérique du Sud. Mais c'est vrai que ça a une saveur particulière, hein, il faut le reconnaître. Maintenant, réellement, ce qui est important, c'est que chaque opération finalisée, petite ou grande, exotique ou non d'ailleurs, se termine avec une transaction bien équilibrée, des vendeurs et des acheteurs satisfaits et par quelques bouteilles de champagne.
toujours. Toujours le champagne. Comment la fonction de la M&A a-t-elle évolué au fil du temps? Comment tu perçois tout ça et quelles sont les principales tendances que tu anticipes d'ici les prochaines années?
Alors, comme pour les autres métiers, elle s'est digitalisée. Hein, en termes d'échange d'informations, de management meeting à distance, de data room virtuel, j'en ai déjà parlé. Mais il y a aussi surtout un focus de plus en plus grand, de plus en plus marquant, à la fois sur l'intégration, sur l'importance de l'intégration et surtout sur la prise en compte de l'aspect humain et de la culture d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus régulièrement dans les transactions des vrais due diligence, donc des audits culturels, où on vérifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité de culture entre les entreprises. Donc, il ne faut jamais oublier qu'une grande partie de la valeur d'une entreprise repose sur les gens. Hein. Aussi, pour finir sur l'évolution, je dirais que les fusions et acquisitions maintenant font, je pense, de plus en plus partie intégrante de la stratégie de croissance d'une entreprise, plutôt que d'être, comme c'était le cas parfois auparavant, un phénomène purement opportuniste. Alors, en termes de tendance. Je dirais tout d'abord que l'année 2023 a été difficile pour les fusions et acquisitions, en raison principalement de conditions macroéconomiques assez difficiles. Hein. Il y a eu un ralentissement de la croissance et une certaine incertitude économique. Et comme tu le sais aussi, taux d'intérêt beaucoup plus élevé et donc un accès au financement beaucoup plus contraignant. Maintenant, cette remontée de taux a permis, sans vouloir être technique, hein, aux multiples de valorisation de redevenir à des niveaux beaucoup plus attractifs et a aussi obligé les acteurs à se focaliser ou à se refocaliser sur les fondamentaux de l'entreprise, que sont la croissance de revenus, l'amélioration des marges et le suivi strict du cash. Alors, en ce qui concerne le futur, je pense que tout d'abord, la communauté des fusions-acquisitions demeure assez optimiste pour les années à venir. Or, même s'il y a toujours des doutes quant aux incertitudes économiques, géopolitiques ou environnementales, comme on a parlé, je pense qu'il existe d'abord une inflation qui devient relativement maîtrisée, mais aussi un capital abondant sur le marché. Une deuxième tendance, au moins, c'est que le focus sur l'aspect humain va continuer à être très important pour les rapprochements futurs. Et la dernière grosse tendance que je vois, c'est qu'il faut s'attendre à ce que les critères ESG, comme pour la finance, ou les critères ESG constituent un élément de plus en plus important, la due diligence, à côté des aspects financiers, commerciaux, opérationnels et culturels. Voilà pour les tendances les plus importantes.
D'accord, très intéressant en tout cas, Eric. Dernière question en lien, que je refais encore une petite boucle vis-à-vis d'Emasphère. En quoi un outil de reporting automatisé comme Emasphère pourrait apporter une valeur ajoutée dans ton travail de corporate finance ou M&A?
Alors, dans le cadre de la recherche de financement, de levée de fonds ou dans le cadre de valorisation ou autre analyse financière, nous avons régulièrement besoin, et relativement rapidement d'ailleurs, de reporting financier, de reporting analytique, encore une fois d'indicateurs, qu'ils soient financiers ou opérationnels. Bref, d'un grand nombre d'informations, financières ou non financières, historiques ou futures, et surtout correctes et cohérentes, et cela pour les différents stakeholders, donc les différentes parties prenantes, hein, que ce soit des banques, des investisseurs, un comité de direction ou un conseil d'administration. Et pareil, dans la transmission d'entreprise, nous devons fournir des informations financières et opérationnelles de qualité dans la data room. Donc là, il faut savoir que plus un reporting est clair, complet, de qualité, ça va permettre beaucoup moins de discussions sur la performance et in fine sur la valorisation de l'entreprise. Et ça va donc, contribuer, favoriser un processus beaucoup plus fluide et plus rapide. Et donc, en résumé, il est certain qu'un reporting automatisé permettant de fournir des informations financières consolidées ou non, des ratios financiers standards, des KPI opérationnels pertinents, ça va faciliter le travail de n'importe quel CEO, CFO ou autre conseiller qui sont impliqués dans un processus de levée de fonds ou de transmission d'entreprise.
Tout à fait. Alors Eric, nous arrivons déjà à la fin de notre épisode et comme chaque invité sur le podcast, tu n'échapperas pas aux traditionnelles questions de fin d'épisode. Je te pose tout de suite la première question. Qui considères-tu comme le mentor de ton histoire ?
Alors réellement, j'aurais très difficile de citer une seule personne. Hein. Dans chacune des étapes de ma vie professionnelle, dans les différents rôles ou fonctions, ou dans chacune des missions, ou dans les différents pays où j'ai eu l'opportunité de me rendre, pour le travail ou non d'ailleurs, j'ai pu rencontrer des personnes réellement inspirantes, qui ont certainement tout influencé d'une manière ou d'une autre, positivement, tout ça, la personne que je suis devenue. Bon, à cela, il faut certainement ajouter mon épouse, hein, on ne sait jamais qu'elle écouterait le podcast à un moment, qui m'a toujours supporté dans mes choix et qui, à un certain moment, réellement, dû endurer mes nombreuses absences et gérer les trois enfants. Donc, pas un mentor en particulier, mais beaucoup de belles rencontres et influences le long de mon parcours.
Eh bien, on espère que donc ton épouse écoutera donc ce podcast. Je m'en vais tout de suite te poser la deuxième question de fin d'épisode. Alors, est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète ?
Alors là, Laurie, je ne vais pas être très original. Je vais dire tout d'abord le sport. Je sais d'ailleurs, Laurie, que tu dis souvent que la course à pied est le sport préféré des CFO ou des financiers. Mais moi, je n'aime pas du tout les sports d'endurance ou de souffrance, comme je les appelle. Donc, je préfère les sports avec un peu plus d'intensité, oui, un jeu. Mais à côté du sport, je dirais aussi, je pense, la passion et l'énergie dans tout ce que je fais et essayer de voir le positif le plus souvent possible. Donc, j'essaie vraiment d'éviter tant que possible les personnes toxiques. Alors, t'ajoutes à ça, je crois, un côté sociable, le fait que j'aime travailler en équipe et tout ce qui va avec, hein, d'ailleurs, que ce soit le partage de connaissances, que ce soit le coaching ou que ce soit le fun. Bref, Laurie, rien de bien original, pas réellement une potion magique, mais plutôt un beau cocktail qui, moi, me permet d'avoir un équilibre qui me convient depuis de nombreuses années.
Magnifique. Et le football américain, juste comme ça, tu le pratiques ou tu le regardes ?
Je le regarde.
C'est
assez bien intense. Ils ont raison d'ailleurs.
La troisième et dernière question que l'on pose à tous les CFO sur ce podcast, c'est: quelle est la morale de ton histoire ? Est-ce que tu aurais une citation ou un proverbe à nous partager, Eric ?
Simple pour exprimer cela pourrait être « Optimiste et pessimiste meurent de la même manière, mais ils vivent différemment ». Donc je crois que ça résume pas mal ce que je pense.
Et si tu pouvais un peu m'expliquer cette citation ?
Qu'il faut vivre le moment présent.
Super. Bah, c'est une magnifique citation de fin. Bah, Eric, merci d'être venu donc sur cet épisode. Je vais te souhaiter une bonne continuation chez Emasphère et une bonne journée.
Merci beaucoup.
Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.